CJSO 101.7. La Tribune, une présentation Meubles d'André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
À la Tribune aujourd'hui, à 6 jours de l'élection, je m'entretiens avec les candidats des 5 principaux partis. Jean-Bernard Raymond, de la Coalition Avenir Québec, Gabriel Arpin, du Parti québécois, Anthony Sauriol, du Parti libéral, Marie-Ève Dionne, du Parti conservateur, et David Dionne, de Québec solidaire. Je parle au sondeur Jean-Marc Léger et j'échange avec notre principal tandem d'analystes de la campagne, Reynald Bergeron et Denis Marion. C'est la Tribune jusqu'à 13h. À tout de suite.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La grande vente annuelle 101e anniversaire de votre bijoutier diamantaire Kittner bat actuellement son plein. Obtenez des rabais de 20 à 60% sur une précieuse marchandise choisie dans les grandes expositions internationales. Laissez-vous envoûter par votre bijoutier diamantaire Kittner, 50 rue Augusta, au cœur du centre-ville, depuis 1921.
La Tribune, une présentation Meubles d'André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
On fait la tournée d'abord des candidats à 6 jours de l'élection. Jean-Bernard Raymond, bonjour.
Bonjour Sylvain.
C'est pas une campagne bien bien stressante pour vous, M. Raymond. Là, votre parti paraît se diriger vers une victoire facile. Alors, vous ne pouvez pas souffrir d'insomnie, là.
Ben, vous faites bien de le mettre au conditionnel. Moi, je regarde les sondages ou les tendances avec beaucoup de prudence. Je disais à quelqu'un justement plus tôt ce matin, vous savez, c'est ma 4e campagne et puis j'ai perdu 2 fois. Alors, j'ai beaucoup trop de respect pour le processus démocratique pour prendre les choses pour acquises et mon équipe et moi, ben, on travaille très fort encore aujourd'hui puis on va le faire jusqu'au 3 octobre prochain.
Votre chef, François Legault, et celui de QS semblent s'être choisis comme adversaire numéro 1. Il me paraît observer la même dynamique ici. Le candidat solidaire, David Dionne, déteste pas ça, là, vous apostrophez. Qu'avez-vous à répondre à sa dernière sortie? Il veut que vous sortiez de votre mutisme, là je le cite, le mot est de lui, le mutisme, dans le dossier des émissions de poussière au centre-ville.
Ben moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui, présentement, dans le contexte que l'on vit, décident de mettre sa face sur la pancarte, comme on dit, là. Ça demande beaucoup de résilience, de courage. Alors, je salue les autres candidats qui sont là, que j'ai croisés, là, entre autres, surtout Marie-Ève, la candidate du PCQ, et M. Arpin du Parti québécois, que j'ai croisé à plusieurs reprises.
Les poussières dans l'air, M. Raymond? Les poussières dans l'air, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Ben, écoutez, moi, je vais mener ma campagne jusqu'au 3 octobre. On va laisser les électeurs faire leur choix. Et par la suite, si c'est un dossier qui m'est adressé, je vais lui répondre avec plaisir.
Continuer dans Richelieu, je réfère à votre slogan, là, continuons. Ce serait continuer quoi dans Richelieu? À quoi avez-vous hâte de vous consacrer là, le 4 octobre?
Ben, écoutez, je demande l'appui des concitoyens pour continuer le travail que nous avons amorcé dans les 4 dernières années, qui nous a permis quand même de faire des gains au niveau de la santé avec l'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique à l'Hôtel-Dieu Sorel, avec la construction ou la rénovation de nos écoles. Je pense, entre autres, à l'école primaire de Yamaska, mais également un projet de 14 millions pour remettre en état la polyvalente Bernard Gariépy dans le secteur Tracy. Je pense aussi à continuer ensemble pour amener des infrastructures sportives dans la région. Alors, poursuivre la forme de décentralisation pour nos soins de santé. Alors, c'est ce que je demande aux citoyens, leur appui pour poursuivre ensemble le travail qu'on a amorcé dans les 4 dernières années.
Votre chef a lancé à Mme Anglade, au face-à-face de TVA, là, qu'elle n'avait plus, Mme Anglade, le monopole d'être contre la souveraineté. Bon, ça, je suis sûr que c'est de la musique aux oreilles des fédéralistes qui votent pour votre parti, mais vous craignez pas qu'il se soit agi d'une fausse note pour les souverainistes qui ont pu vous appuyer en 2018?
Ouais, ça, c'est un débat. C'est un faux débat, pour être franc. T'sais, vous savez, moi, je suis un nationalisme dans l'âme, même un régionaliste. Je suis en politique pour faire avancer notre région. Puis à la CAQ, là, c'est une coalition, le mot le dit bien. Donc, tout le monde vient d'un autre parti. Hein? On a été fondé en 2012. Donc, il y a des anciens péquistes, des anciens libéraux, des gens de la DQ. Puis pour être franc avec vous, M. Rochon, quand on est tous ensemble, là, on ne discute jamais de ça. Je sais que ça intéresse les journalistes ou les chroniqueurs, mais de notre côté, nous sommes tous des nationalistes. Puis le but premier, c'est de faire avancer le Québec.
OK, fait que Bernard Drainville puis Caroline Saint-Hilaire, ça vous parle pas d'indépendance du Québec, eux autres, là?
Pas du tout. Quand on est ensemble, on discute pas de ça. On discute plutôt des projets qu'on pourrait faire avancer dans nos régions respectives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le Québec dans l'état actuel des choses. Alors, voilà. On est tous des nationalistes. Puis je pense qu'on l'a prouvé dans les 4 dernières années.
Vous avez un agenda bien rempli, là, j'imagine, pour ces 6 derniers jours de campagne.
Oui, tout à fait. Ben, ça a été sur les chapeaux de roue pas mal toute la campagne. Là, je vous parle, je suis dans ma voiture. On continue les rencontres. On était ce matin, entre autres, avec la CDC, les organismes communautaires, qui recevaient les candidats en alternance pour avoir une discussion d'une 45 minutes, une heure environ avec eux. Et puis, je sors d'une résidence pour personnes âgées. Mon agenda est assez bien garni. On dort bien le soir, je vais vous dire.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond.
C'est un plaisir.
Merci. Oui. Bonjour. Gabriel Harpin est candidat du Parti québécois dans Richelieu. Bon midi, Gabriel Harpin.
Bon midi, comment ça va?
Ça va bien. Est-ce que cette première campagne vous donne envie, M. Harpin, d'en mener d'autres où on ne vous reverra plus si vous êtes défait le 3?
Non, en fait, ça m'a motivé à me lancer en politique pour de bon. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir un aussi bon accueil de la population. Chaque place où je vais, les gens sont contents de me rencontrer. Ils sont contents qu'il y ait un jeune de la région qui se présente. Donc non, c'est super encourageant et non, j'ai le goût de me lancer en politique pour de bon.
C'est rare qu'on entende des chefs de parti concéder la victoire à une semaine de l'élection. C'est ce que j'ai cru entendre le vôtre, Paul Saint-Pierre Plamondon, faire à Tout le monde en parle. Sa bataille, c'est clairement celle d'obtenir maintenant l'opposition officielle. Est-ce que vous vivez bien avec cette transparence?
Mais en fait, je pense que la question, c'est comment les autres partis font pour pas être transparents. Je pense que la campagne et la transparence de PSPP prouvent que les gens aiment un candidat, un chef qui est transparent et aussi un candidat qui est transparent. Parce que souvent, moi, c'est le commentaire qu'on me passe, c'est que les gens trouvent que je suis transparent et que je suis moi-même et que quand ils me parlent dans la rue ou s'ils m'entendent à la radio, je suis la même personne. Donc, je pense que c'est une qualité et ça m'affecte pas du tout que mon chef a été aussi transparent.
C'est au nombre de sièges, de circonscriptions remportées, pas au pourcentage de voix récoltées qu'on forme le gouvernement, l'opposition officielle, la deuxième, troisième ou quatrième opposition. Vous pensez que le PQ est en position de pas perdre, mais de gagner des sièges le 3 octobre?
Ah, bien sûr. Je pense que la campagne le montre bien. Paul Saint-Pierre est en hausse dans tous les sondages. Le PQ est en hausse dans tous les sondages. Je pense qu'on était à quelque chose comme à 8-9 % à un moment au cours de l'été. Maintenant, on est à 15 ou 16, je crois, lors du dernier sondage. Donc, je pense que ça démontre à quel point le PQ est en bonne posture pour aller chercher des nouveaux sièges.
Reprendre Richelieu, est-ce que vous y croyez vraiment à la lumière des sondages nationaux transposés localement? Y croyez-vous vraiment?
Oui, je pense que oui. Honnêtement, le nombre de gens que je rencontre qui me disent qu'ils ont voté CAQ aux dernières élections pour sortir les libéraux et que là, me disent qu'ils vont retourner à leurs vieux amours et voter PQ, c'est énorme, énorme le nombre de gens qui me disent ça et qui disent ça aux gens de mon équipe. Donc oui, je pense que c'est plus que possible.
Pourquoi il ne faut pas continuer avec la CAQ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce que vous feriez de mieux, vous, dans Richelieu?
Ben, je pense pas que c'est mon rôle de dire ce que la CAQ a nécessairement fait de mal. Ce que je sais, c'est que la CAQ prend une direction qui n'est pas la mienne et qui, je crois, ne concorde pas avec plusieurs Québécois, c'est-à-dire la privatisation, par exemple, de notre système de santé, continuer à financer certains organismes privés au détriment des organismes publics déjà existants. Donc, je pense que c'est ce chemin-là que les Québécois n'ont pas nécessairement On les oblige un peu à se lancer sur ce chemin-là, et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont en désaccord, mais c'est pas à moi de décider pour eux, c'est à eux de décider. Maintenant, dans la région, bon, il y a plusieurs enjeux dont je pourrais mentionner, mais je pense que je pense que M. Aymon n'a pas toujours été présent lors de la pandémie. Je vais laisser ça comme ça.
À quoi vous occupez les derniers jours de la campagne, Gabriel Arpin?
J'y rencontre le plus de gens possible. Il y a plusieurs personnes qui me demandent d'avoir des appels individuels et je l'ai mentionné plusieurs fois dans la campagne que si les gens voulaient me rejoindre et me parler directement à moi, c'était possible de le faire et ça va me faire plaisir de leur parler. Donc, il y a des gens qui me contactent pour avoir des réponses à leurs questions ou pour me dire pourquoi ils devraient voter PQ. Donc, ça, c'est quand même une bonne partie de mon temps. Sinon, je vais essayer d'être présent le plus possible à différents événements dans la région. J'en ai quelques-uns cette semaine à mon agenda. Donc, l'objectif, c'est de que les gens puissent me parler et voir les idées dont j'ai à présenter.
OK. Merci beaucoup, Gabriel Arpin. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Le Parti libéral est représenté dans Richelieu par Anthony Soriol. Bonjour, M. Soriol.
Bonjour, M. Rochon. Comment allez-vous?
Ça va bien. Vous, comment allez-vous?
Excellent. Merci beaucoup.
Ouais. Est-ce que c'est un one-shot, Anthony, pour vous, là, dans Richelieu, ou est-ce que c'est le début de quelque chose, même advenant votre défaite?
Écoutez, je vous trouve très rapide à dire que je vais avoir une défaite, mais en fait, moi, j'ai un coup de cœur dans le comté de Richelieu. Je trouve que c'est tellement un bel endroit, puis il y a vraiment un extrêmement bel esprit de communauté, puis c'est vraiment inspirant et très motivant, puis ça me ferait effectivement très plaisir d'être le porte-parole du comté. Donc, c'est certainement une possibilité, effectivement.
OK. J'ai pas dit que vous alliez être défait. J'ai dit, advenant à votre défaite, vous continuez ou vous arrêtez? Là, vous me dites, je continue?
Je continue.
OK. Vous êtes sauté sur la glace alors que la partie était déjà commencée. Vous avez reçu votre chandail du club là, pendant la première période. La partie se termine lundi. On est en fin de troisième. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir scoré pendant la game?
Écoutez, c'est sûr que je suis peut-être arrivé un peu plus tardivement, mais comme je vous ai dit, j'ai été constamment à la rencontre des citoyens sur le terrain, je suis à leur écoute. J'ai pas arrêté de travailler le temps que j'avais. J'ai fait du mieux que je pouvais, puis j'espère que ça l'a inspiré certaines personnes, beaucoup de personnes. J'ai fait de mon possible, puis je veux les convaincre à vouloir découvrir ou même redécouvrir c'est quoi voter libéral. Donc ça, c'était mon plan dans le temps que j'avais.
Redécouvrir c'est quoi, vous dites redécouvrir c'est quoi voter libéral. Le dernier député libéral que Richelieu ait connu, c'est M. Kelfa. D'ailleurs, il assistait au débat, vous l'avez sûrement vu.
Absolument.
Il a siégé à l'Assemblée nationale de 1985 à 1994. Il y a 28 ans de ça, 28 ans, M. Soriol. Ça n'a pas de quoi être bien motivant, non? Comment vous faites là, pour vous motiver?
Pas du tout. Il faut juste penser à... Toutes les parties dans l'histoire du Québec, ils ont toutes passé leur tour. Puis peu importe la quantité, c'est bien la qualité. M. Kelfa a été extrêmement apprécié pendant son temps. Et je crois que le Parti libéral peut facilement revenir au pouvoir puisqu'on a des extrêmement bonnes idées. Puis on a besoin d'idées d'avenir pour l'économie, pour la société, pour l'environnement. Puis honnêtement, selon moi, il y a seulement le Parti libéral qui a de quoi proposer, qui concilie vraiment l'environnement et l'économie. Il y a la santé à cœur. C'est vraiment le parti du futur, selon moi. C'est peut-être pas cette année, mais dans 4 ans, on continuera. Il faut amener une redécouverte du Parti libéral au Québec, surtout dans le comté de Richelieu.
Qu'est-ce que le Québec aurait à gagner à revenir au Parti libéral et à ne pas continuer avec la CAQ?
Mais en fait, nous, notre parti, de un, il y a des médecines fermées à cœur. On le sait depuis le début de la campagne, là, de la CAQ, on a eu encore plus d'attentes pour avoir un médecin de famille. Puis ça, c'est central pour le Parti libéral du Québec. Malgré que ce soit difficile, on s'engage à le faire parce que c'est un droit. Ensuite, l'éducation, on vient d'annoncer hier 4 milliards de dollars dans les infrastructures scolaires publiques parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'une bonne remise en état. Après ça, le service de garde, encore plus d'attentes depuis la CAQ. Mais il faut laisser les maires retourner au travail. Puis en plus, on veut le rendre à 8,70 dollars par enfant. Puis ça, c'est des choses qui ne sont pas offertes présentement et on veut le faire.
Ce sera quoi votre priorité, Anthony Soriol, pour le comté si vous êtes élu le 3 octobre?
Moi, c'est très simple. Moi, je suis à l'écoute des citoyens et citoyennes. J'agis à titre de leur porte-parole à l'Assemblée nationale. du Québec. C'est ça mon but ultime. Je veux être à leur écoute. Je veux savoir c'est quoi leurs enjeux. Puis je veux être là pour satisfaire leurs besoins. Parce que moi, étant quelqu'un de très empathique, la politique en tant que telle, c'est vraiment dans mon élément. T'sais, mon emploi sera d'embellir leur vie aux citoyennes et citoyens du comté de Richelieu puis de les aider quotidiennement. Donc, c'est ça que j'aspire à faire.
Merci beaucoup, M. Sorial.
Ben, merci à vous.
Merci. On joint maintenant la candidate d'Éric Duhaime, Marie-Ève Dionne. Bonjour, Mme Dionne.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. On voit qu'ils sont tous empathiques. Ils me demandent tous si ça va bien. Vos ambitions, Mme Dionne, quelles sont-elles le 3 octobre? Ambitionnez-vous de gagner? Pensez-vous que vous allez arriver deuxième en chauffant le député sortant? C'est quoi vos ambitions là, le soir du 3 octobre?
Bien, c'est certain qu'on espère tous gagner, c'est certain. Je le souhaite du plus profond de mon cœur, en fait. Quand je vais à la rencontre des gens, je me rends compte aussi que j'ai une belle réponse. Les gens sont ouverts à mieux connaître, là, dans le fond, le parti, parce que des fois, il est peut-être un peu méconnu. Donc, quand je me mets à expliquer le parti en tant que tel, les gens sont ouverts, puis je trouve ça vraiment agréable. Pour vrai, c'est vraiment le fun sur le terrain. J'adore aller voir les gens. C'est comme ma partie préférée de la campagne, en fait, aller écouter les gens sur le terrain et savoir c'est quoi leurs enjeux dans la région.
Qui va voter, je veux pas des noms là, qui va voter conservateur lundi?
Ceux qui vont voter conservateur, c'est des gens qui sont tannés du système actuel, qui trouvent que c'est pas efficace et qui ont envie de changement puis d'essayer quelque chose de nouveau. Ça fait 40 ans qu'on fait la même chose, puis je pense qu'un peu de jeunesse... À l'Assemblée nationale, ça ne fera pas de tort pour faire bouger les choses.
Vous occupez comment les 6 jours qui nous séparent de l'élection? D'abord, là, est-ce que vous avez réussi à avoir un congé total de votre travail pour le dernier sprint?
Non, pas total. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un congé là, pour aller rencontrer M. Brochu, le directeur de la CDC. Dans le fond, la Corporation de développement communautaire.
Donc, Mathieu Brochu,
oui. Oui, à 13h. Donc, tout de suite après notre entrevue ensemble, je m'en vais le rencontrer pour discuter là, des enjeux concernant le développement communautaire. Parce que pour moi, ces organismes-là, c'est des précieux partenaires. Je trouve que je veux soutenir leur mission, en fait. Puis, comme la population est vieillissante aussi, le Parti conservateur veut les soutenir financièrement. Ces organismes-là, surtout aussi les aidants naturels là, qui donnent des soins aux aînés. On pense que ça peut bien décharger le système de santé de ce côté-là, d'aider les organismes communautaires.
OK, alors vous rencontrez M. Brochu tantôt. À part ça, là, les jours qui nous séparent de ce qu'on appelle le jour J, là, vous faites quoi?
Dans le fond, ben, j'ai prévu du porte-à-porte. Je vais aller à des sorties de commerce. J'ai des appels téléphoniques. Dans le fond, je fais le maximum que je peux avec le temps que j'ai, étant donné que je travaille aussi temps plein, mais cette semaine, j'ai pris quelques congés là, justement pour aller rencontrer le maximum de personnes de la région là, pour discuter avec eux.
OK. Vous me disiez d'entrée de jeu, apprécier la campagne électorale, apprécier en tout cas le contact avec les électeurs. Appréciez-vous suffisamment cette expérience de campagne électorale pour la répéter si vous étiez défaite là, lundi? Est-ce que vous auriez le goût d'en remettre dans 4 ans, d'être à nouveau là dans 4 ans?
Ah, c'est sûr que j'aimerais ça. Dans le fond, je sais qu'on est un jeune parti, donc je me dis que si jamais là, j'ai pas assez de votes dans la région, je me dis que c'est pas fini puis que tout est possible dans 4 ans. Donc oui, j'ai de l'espoir de ce côté-là également, mais c'est certain que j'espère que les gens vont voter tout de suite pour le changement, mais nous allons voir ça là, dans le fond le 3 octobre.
Premier dossier auquel Marie-Ève Dionne s'attaque si elle est élue lundi. Premier dossier local, c'est lequel?
Moi, c'est la santé. Je veux que les gens aient accès, dans le fond, à une clinique sans rendez-vous dans la région. C'est vraiment ma priorité. Je trouve que c'est de ce côté-là qu'il y a le plus gros manque. Sinon, il y a aussi les places en garderie là, que je trouve ça plate que les parents ne puissent pas retourner travailler. Je trouve que ça n'aide pas à la pénurie de main-d'œuvre qu'on fait face présentement, dans le fond. Donc, ça serait ces deux enjeux-là les principaux. Sinon, ce serait d'aider les gens là parce que le coût de la vie augmente en flèche. Donc, ce serait d'aider de ce côté-là là, pour leur remettre de l'argent dans les poches là, puis relancer l'économie locale.
Merci beaucoup, Marie-Ève Dionne.
Merci, ça me fait plaisir.
Merci, bonjour.
Au revoir.
On passe de Mme Dionne du Parti conservateur à M. Dionne de Québec solidaire. Bonjour, David Dionne.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, M. Rochon.
Demandez-moi si je vais bien, là, parce que vous allez être le seul à ne pas l'avoir fait. Bon, vous ne me demandez pas, je vais vous le dire pareil, je vois très bien. Bon, je disais à Jean-Bernard Raymond que c'est avec vous qu'il a sans doute le plus eu à découdre. Dernier reproche que vous lui avez adressé, son mutisme dans le dossier des émissions de poussière au centre-ville. Je ne sais pas si vous avez été satisfait de sa réponse, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je l'ai questionné là-dessus. À quoi vous vous seriez attendu de sa part dans le dossier des poussières là, au centre-ville?
Alors, bien, c'est certain qu'il aurait été tout à fait normal et attendu que le député sortant soit le premier à s'indigner et à prendre action. Il est supposé être la voix de notre circonscription. Puis, tu sais, l'enquête qui est parue dans l'édition du Devoir du 27 août dernier faisait quand même état d'un rapport accablant, un rapport qu'on a caché, qui concerne la santé publique, des rejets de poussière nocives qui impactent nécessairement la santé des gens. Et aussi, disons qu'il y a l'angle de la santé qui est primordial, mais aussi, parlons de nos commerçants. C'est important. Eux autres, ils travaillent fort pour contrer la dévitalisation du centre-ville. On leur doit des réponses à ces gens-là aussi.
OK. Je vous ai entendu soumettre au débat qu'il fallait une voix forte pour Richelieu.
Oui.
Quelle est la garantie que vous seriez plus vocal que M. Aymon?
Écoutez, on le voit, force est de constater que le député sortant, tout comme l'ensemble de la députation caquiste d'ailleurs, fait la démonstration répétée que son devoir de loyauté, ben, il est d'abord et avant tout à l'égard de son parti, plutôt qu'envers la population qu'il est tenu de défendre. On le voit, prenons par exemple la crise du logement. Jean-Bernard Raymond ne se mouille jamais. Il a fallu qu'il attende le feu vert de son boss pour enfin s'exprimer sur la crise du logement. C'est pas normal d'être si éloigné du terrain. C'est pas normal d'être muet face à une crise aussi grave que celle du logement.
Bien des gens votent pour gagner. Vous savez ça, M. Dionne. Ils regardent les sondages, ils voient la CAQ qui va être portée au pouvoir, puis là, ils veulent un député au pouvoir. Vous dites quoi à ces gens-là?
Ben, je leur dis, regardez ce qui s'est passé au courant des 4 dernières années, puis je vous garantis malheureusement qu'effectivement, si on a encore un gouvernement caquiste le 4 octobre prochain, ben, on va être au même point dans 4 ans. Il n'y aura pas de grand bouleversement à la coalition Avenir Québec. Ce que je souhaite dans leur façon de faire, tu sais, ils agissent comme une business. Ils ont une signature de gouvernance qui, à mon avis, en ce moment, nuit beaucoup plus qu'à l'avantage. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Je me suis présenté cette année pour représenter les gens qui ont, comme moi, à cœur l'environnement, les inégalités sociales. On veut remettre de l'argent dans les poches des gens, notamment avec la crise, l'inflation, tout ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que je me suis présenté cette année, en 2022, pour revenir dans 4 ans et pour continuer le travail que j'ai déjà entamé auprès des gens, que je vais rencontrer, les organismes, les gens qui je parle dans la région, qui me démontrent un appui indéfectible. Ces gens-là, je leur dis, on se revoit dans 4 ans, quoi qu'il advienne.
OK. Les programmes du Parti québécois et de Québec solidaire sont pas si éloignés. Vous pensez pas que ça fait bien l'affaire de la CAQ, ces deux partis qui divisent le vote indépendantiste, progressiste, environnementaliste? On n'est pas dans un système où le pourcentage de voix exprimées compte, mais dans un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est pas choquant, ce fractionnement du vote indépendantiste?
Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Québec solidaire, dans ses positions, dans son ADN, n'a jamais changé d'identité. Le Parti québécois ne peut pas en dire autant, malheureusement, parce que l'aiguille du Parti québécois, tout dépendamment, on a pu l'observer au courant des 20 dernières années, c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'ai décroché du Parti québécois, c'est qu'il y a un manque de cohérence. On sent qu'il y a une vieille garde, on sent qu'il y a un discours davantage replié sur soi, tandis que chez Québec solidaire, on parle davantage de main tendue, d'un projet de société qui met d'abord et avant tout l'inclusion en premier plan. Il y a d'énormes différences entre le Parti québécois et Québec solidaire, ne vous en déplaise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis résolument Et je serai toujours aux côtés de Québec solidaire pour mener les enjeux à l'Assemblée nationale.
OK. Même si le parti vieillit, se sclérose, puis tout ça, est-ce que vous prétendez être arrivé au PQ, vous allez rester solidaire, c'est ce que je comprends?
Bien, en fait, là, je me concentre d'abord et avant tout sur la campagne actuelle. C'est certain que dans 4 ans, voyons où nous en sommes rendus, mais pour l'instant, mes yeux sont sur cette campagne.
D'accord. Je comprends, vous m'avez précédé, vous l'avez dit avant que je vous pose la question. Vous, là, si vous n'êtes pas élu lundi, on va entendre parler de vous pendant les 4 années de mandat de M. Émond. Vous allez agir comme chien de garde des intérêts de Richelieu?
Absolument. Bon, chien de garde, c'est un peu... je suis ici pour gagner, je vous l'ai déjà dit, M. Rochon, je suis ici pour représenter les gens de Richelieu. C'est pour moi un premier exercice à titre de candidat. Je l'ai pris au sérieux, j'ai fait énormément de sacrifices. Je suis partout autant que possible, je vais rencontrer le maximum de gens. La réponse terrain, elle est bonne, elle est surprenante, j'ai des appuis inespérés. Je travaille très fort et oui, tout à fait, je m'engage à travailler fort aussi pour les 4 prochaines années. J'ai envie de vous dire, cette année, on a pu avoir compté en fait sur plusieurs bénévoles qui se sont joints à nous, des gens qu'on ne connaissait pas, qui se sont sentis fortement interpellés par notre projet de société. Puis je crois que notre association ici dans Richelieu va énormément grandir au courant des prochaines années.
OK.
Je vais travailler très fort ensemble.
Merci, M. Dionne.
C'est un plaisir.
Merci, bonne fin de campagne.
Merci. Alors,
vous écoutez La Tribune, chers amis. Après la pause, on parle au sondeur Jean-Marc Léger.
Jusqu'au 28 septembre, place à la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Économisez 200 $ additionnels à l'achat de 2 électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag. Ou encore, économisez 300 $ additionnels à l'achat de 3 électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag ou plus. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez le meuble Beaulieu.ca.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation Meubles d'André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse ce midi à La Tribune aux élections du 3 octobre prochain. Il est dans le monde des sondages une référence. C'est un spécialiste de l'opinion publique. Je m'entretiens avec le président fondateur de Léger, Jean-Marc Léger. Bonjour, Monsieur Léger.
Bonjour Sylvain.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Votre maison publie, on en parle partout, publie aujourd'hui un nouveau sondage. On a vu là, les résultats. On doit en retenir quoi de ce sondage-là?
Ben, essentiellement, c'est que la CAQ perd des points. Depuis le début de la campagne, ils ont commencé à 42% d'intention de vote. Ils sont aujourd'hui à 37%. Mais malgré tout, ils dominent largement partout au Québec, parce que le deuxième parti politique est loin derrière avec 17% des voix. L'avantage de la CAQ, c'est qu'elle affronte 4 partis différents, ce qui leur permet d'espérer une majorité. Sylvain, ce qui est assez ironique, c'est que 37% est le même score qu'ils avaient eu en 2018, et pourtant, ils ont la possibilité d'aller chercher 15 à 20 sièges de plus avec le même résultat.
Parce que le vote est plus fractionné, le vote d'opposition à la CAQ?
Oui, parce que ça demeure des batailles régionales. Globalement, le numéro 2 est Québec solidaire à 17%, suivi du Parti libéral à 16%, du PQ et du Parti conservateur à 15%. Ils sont tous dans un mouchoir de poche, là. Parce que l'élection générale, c'est davantage une élection pour choisir l'opposition, parce que le gouvernement est probablement celui de la CAQ, mais derrière ça, il y a quand même des batailles régionales.
Puis là, probablement, quand vous dites probablement, c'est parce que vous voulez être extrêmement prudent, parce qu'il me semble que la coalition Avenir Québec se dirige néanmoins toujours résolument vers une victoire convaincante, là.
Bien, c'est-à-dire que la tendance est forte depuis 3 ans, ils sont autour du 40%. Là, ils sont au score le plus faible, à 37%, mais malgré tout, ils ont une avance. Mais le vote n'a pas eu lieu. Il y a eu 23% des gens qui ont voté par anticipation. Hein, Sylvain, il y a un vieux dicton qui dit un vote dans l'urne, ça bouge pas, ça.
Et ça change pas. Tu peux pas changer d'idée. Pas, c'est trop tard, là. Et c'est particulièrement choquant pour les gens, là, dans Camille Lorrain, qui ont pris pour la Québec solidaire, dont la candidate, là, c'est démise, on sait pourquoi. Eux autres, c'est un vote, là. Ils peuvent pas recommencer, là.
Ils peuvent pas commencer, puis leur vote est annulé. Le bulletin est vraiment déchiré. C'est assez unique, là. On n'a jamais vu ça dans une campagne électorale. Mais ces gens-là, c'est ça. Au total, il y a quand même beaucoup de Québécois. C'est même le plus haut taux de vote par anticipation de l'histoire, là.
Ici, dans Richelieu, Jean-Marc, dans Richelieu, c'est 26 %.
26 % dans Richelieu, ça monte au-delà de 30 % dans le coin de Québec, notamment à Louis-Hébert et Chauveau, qui est le comté d'Éric Duhem, là où le taux de votation est élevé. Mais ça démontre la force des machines électorales, parce qu'il y a 5 partis politiques qui se présentent. Chacun pousse pour aller chez ses candidats. Mais ça ne veut rien dire pour le 3 octobre, parce qu'on ne s'attend pas au 3 octobre à un taux de votation très élevé à ce moment-là. Et ça favorise encore plus la CAQ, parce que les gens âgés qui votent davantage pour la CAQ. Alors que les jeunes votent davantage Québec solidaire, mais ils ne vont pas voter. Moins d'un jeune sur deux va aller voter à l'élection.
Bon, là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui monte, qui n'arrête pas de monter. Vous le disiez, François Legault descend. Alors, François Legault, il ne sera pas fâché de voir la campagne se terminer, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon, il va l'avoir trouvée trop courte, sans doute, là.
Bien, François Legault, on a l'impression qu'il n'en voulait pas de campagne. Hein. Il n'a pas été très de bonne humeur durant la campagne, durant les débats. On a vu toutes ses mimiques et tout ça. Puis il a fait le moins de sorties publiques possible. Les conférences de presse étaient courtes. Donc, tout pour éviter de se tromper durant ce débat-là. Mais d'un autre côté, il y a quand même eu deux autres mouvements d'intention de vote au cours des dernières semaines. Il y a eu d'abord la montée du Parti conservateur qui est passée de 5 % en début d'année à 15 %. Une montée assez importante. Et là, elle a stabilisé durant la campagne et même commencé à réduire. L'autre tendance, c'est celle du PQ. Le PQ était très marginalisé à 9 %. On se demandait si le parti était pour survivre. Là, il est rendu autour de 15 %. Il rentre dans ce qu'on appelle la zone payante. Chaque point de plus de pourcentage, ça veut dire des députés pour le Parti québécois, là. Donc ça, c'est un mouvement de fin de campagne, mais forcément, ce ne sera pas assez fort, puis beaucoup trop tard.
Ouais. Est-ce que j'erre, si je... le verbe errer, là. Est-ce que j'erre si je soumets que les conservateurs pourraient obtenir un meilleur pourcentage du vote que celui que nous indique le sondage, qui pourrait se cacher des conservateurs discrets parmi les indécis?
Alors, moi, je pense que c'est l'inverse. Je donne l'exemple de l'élection fédérale. J'avais des sondeurs qui utilisaient des robocalls, là, comme Main Street, par exemple, là, qui ont surévalué la droite. Ils ont donné de 9 à 10 pour le parti de Maxime Bernier, alors qu'au final, il a fini avec 5. Nous, on avait 6 comme score. Avec nous, on a une technique qui est plus de sondage en ligne. On a un panel qui s'appelle Léo, puis les gens, dans le fond, répondent en ligne. Et on surévalue pas ce parti-là. Moi, j'ai peur de l'inverse, parce que j'ai peur que c'est un coup de gueule aux sondeurs, mais dans la réalité, c'est des gens qui sont anti-système et qui ne croient pas au système.
Ah, OK. Et qui n'iront par conséquent peut-être pas voter.
Exact. C'est plus difficile à développer, mais c'est les vrais partisans. Ce sont eux les partisans les plus forts dans la campagne électorale, là. Il reste ça. Donc, c'est pour ça que Québec solidaire, j'ai peur des surévalués à gauche. Et la même chose à la droite, j'ai peur de surévaluer les partis conservateurs.
Je comprends.
Donc, à l'inverse, la CAQ et le Parti libéral pourraient être sous-évalués, étant donné leur force chez les personnes âgées.
D'accord. On est assez fixé sur qui va former le gouvernement. Est-ce que nous le sommes sur qui va former l'opposition officielle? On n'y répond pas en regardant simplement qui arrive deuxième dans le sondage. C'est au nombre de députés, là, d'élus, que ça se détermine, pas au pourcentage de voix. Alors, c'est compliqué, non?
Oui, c'est une distorsion un peu du système, là. Parce que la CAQ va, avec 37 % des voix, peuvent remporter 80 % des sièges. Bon, ça reste, il n'en reste pas beaucoup pour l'opposition. Au départ de la campagne, le Parti libéral est à peu près assuré de former l'opposition officielle parce qu'à cause de la masse dans l'ouest de Montréal de votes non francophones, ça lui permettait d'espérer. Mais même chez les non francophones, ils ont de la difficulté, là. 46 % des non francophones votent pour le Parti libéral, alors que dans le temps de Philippe Couillard, c'était 71, dans le temps de Jean Charest, c'était 80 % qui votaient. Donc, ils ont des... Mais ça ne change pas les majorités dans Jacques Cartier, qui va passer de 8 000 à 16 000. Hein? De toute façon, ils perdent un peu de vote. Mais ils ont un certain nombre de comtés assurés, une vingtaine de comtés assurés. Là, il s'agit, est-ce qu'un autre parti autour, Québec solidaire, le PQ ou le PCQ, peut aller chercher 20 comtés? C'est encore possible. C'est encore possible que l'opposition officielle ne soit pas le Parti libéral, qu'il soit Québec solidaire ou un autre parti politique, là. Mais il reste un beau. Il reste encore quelques jours de la campagne électorale. Ce sont les jours les plus importants. Parce qu'il y a beaucoup d'électeurs, 32 % des électeurs, un sur trois qui dit qu'il peut encore changer d'idée.
On a entendu, Jean-Marc Léger, on a entendu Québec solidaire et le Parti québécois être très souvent sur la même longueur d'onde pendant les débats, pendant la campagne. Je dirais plus souvent que jamais, il me semble, moi, en tout cas. Dans notre mode de scrutin, ce ne sont pas deux partis qui se cannibalisent?
Pas, oui et non. C'est-à-dire, dans certains comtés, ils se frottent, là, mais globalement, Québec solidaire est très fort à Montréal. Et dans certaines villes universitaires, on parle de Sherbrooke et Rouyn-Noranda, où ils ont fait élire des députés la dernière fois, alors que le PQ est beaucoup plus fort dans le reste du Québec. Donc, dans les régions, donc la Côte-Nord, la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent et dans le 4-5-0. Fait qu'ils ne sont pas vraiment sur le même territoire. Par contre, un 5-10% qu'un parti enlève à l'autre dans ces comtés-là fait toute la différence. Prenez Camille Lorrain, avec le fait que la candidate de Québec solidaire s'est désistée. Là, vous allez avoir un transfert de vote vers le Parti québécois.
Ça vient de donner une méchante chance à Paul Saint-Pierre Plamondon, là.
Oui, parce que quand je regarde les sondages, le deuxième choix de Québec solidaire, 44% c'est le PQ, seulement 14 la CAQ. Fait qu'il y a trois fois plus de péquistes parmi Québec solidaire que de caquistes. Donc, prenez un comté comme Camille Lorrain, le Québec solidaire n'étant pas là, la majorité va aller voter vers le PQ parce que le programme est plus similaire, là, avec des divergences bien sûr, mais est plus similaire.
Quant au face-à-face de TVA, M. Legault a dit à Mme Anglade qu'elle n'avait plus le monopole d'être contre la souveraineté du Québec. Est-ce qu'il a aidé sa cause, M. Legault, ou il a nui à sa cause, vous pensez?
Je dirais les deux en même temps, parce que la force de François Legault, c'est d'avoir vampirisé le vote du PQ en 2018, mais cette fois-ci d'avoir vampirisé le vote des francophones fédéralistes du Parti libéral. C'est ce qu'il a fait des deux côtés de la bouche. Là, il a réussi à dire fait qu'une phrase comme ça, ça lui permet de rassurer les fédéralistes, mais en même temps, ça fait peur aux souverainistes. Et jumelé à la belle performance de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est selon les sondages la personne qui sort gagnant des débats, et là, il y a un mouvement. Là. Il y a un certain nombre de souverainistes qui sont venus à la CAQ, qui sont venus au PQ, pardon, et qui se distancent de la CAQ. Mais comme je dis, c'est probablement trop peu, trop tard. Là. Oui, il va y avoir quelques voix de pourcentage. Oui, le PQ va grimper. Mais jusqu'à quel point, là, jusqu'à quel point ça peut nuire à la CAQ? Pour l'instant, on ne le voit pas encore. Là.
Le Parti conservateur, je vais finir avec ça. Le Parti conservateur va-t-il être représenté à l'Assemblée nationale?
Ça, c'est la grande question. Le soir d'élection, une des interrogations, c'est le comté de Chauveau. Parce que le Parti conservateur a quatre comtés potentiels. Chauveau est celui d'Éric Duhem, qui est une possibilité pour eux, même si la dernière fois, ce parti-là a élu un caquiste par une forte majorité, c'est quand même une possibilité pour Éric Duhem d'être élu. Ça, c'est le premier comté. Après, il reste Beauce-Nord, Beauce-Sud, mais là, on parle de majorité de 13 000 à 15 000 voix pour la CAQ. Ça fait que c'est pas évident. Là. Et donc, faut attendre, mais s'il fallait qu'un premier député conservateur soit élu, suivi d'une élection fédérale avec M. Poilievre et le Parti conservateur au fédéral, le Parti conservateur peut commencer à s'installer au Québec là, pour la première fois depuis longtemps. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu un candidat du Parti conservateur élu au Québec, Sylvain? Une question quiz pour terminer.
Oh là 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 là!
Question, j'étais un sondeur. Hein?
Ben vas-y, donne-toi la réponse.
Ben, c'est Maurice Duplessis dans les années 30.
Maurice Duplessis!
Le chef du Parti conservateur, c'est la dernière fois que le Parti conservateur a fait élire un député.
J'étais tenté de répondre, puis un de mes analystes me l'a soufflé ici en studio, Roch Lassalle, mais lui était au fédéral.
Au fédéral. Au provincial, le Parti conservateur a arrêté parce que Maurice Duplessis s'est associé avec l'Action nationale pour créer l'Union nationale à l'époque. Et donc, le Parti conservateur est parti du Québec depuis le temps. Ils ont vivoté, là, ils ont eu 1-2% des voix, là. Mais là, c'est la première fois qu'ils ont une vraie chance de faire élire un député depuis Maurice Duplessis.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger, d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup.
Merci, Sylvain.
Bonne fin de campagne.
Au revoir.
Salut bien.
L'arrivée de l'automne annonce le retour en classe, au travail et à la routine. Il est maintenant temps de penser à réserver votre examen de la vue avec votre optométriste. Chez Iris, la santé de vos yeux et la qualité de votre vision est notre priorité. C'est pourquoi nous recommandons un examen de la vue tous les 2 ans. Prenez soin de vos yeux. Visitez iris.ca dès aujourd'hui pour prendre votre rendez-vous. Jusqu'au 27 novembre, économisez 100 $ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets. Dr Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Jusqu'au 28 septembre, place à la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Économisez 200 $ additionnels à l'achat de 2 électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag. Ou encore, économisez 300 $ additionnels à l'achat de 3 électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag ou plus. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation Meubles André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, je termine cette émission avec Reynald Bergeron et Denis Marion. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Sylvain. Bonjour, Denis.
Bonjour à vous deux.
Alors, mes amis, est-ce qu'elle est plus intéressante ou plus plate que vous ne l'auriez cru, cette campagne? Et je vous pose la question à l'égard de la campagne nationale d'abord, ensuite on parlera de la locale. Alors, la nationale, plus intéressante ou plus plate que vous ne l'auriez cru, Denis Marion?
Différente. Différente que de ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, on a commencé cette campagne-là en se disant qu'il n'y avait pas de surprise et que M. Legault et son parti étaient pour être réélus et que finalement, c'était presque une campagne inutile dans le sens où on savait quasiment d'avance qui gagnerait.
Non, c'est encore, Denis.
Oui, mais pourtant, les Québécois se passionnent de ce que les autres partis auront comme résultat. Et ça, c'est et intéressant et surprenant. Parce que ça veut dire que les gens, à toutes fins utiles, là, ils comprennent que la vie politique au Québec, elle n'est pas monolithique. Elle ne dépend pas d'un seul parti. Elle dépend d'un lot d'idées qui s'expriment dans la population puis dans le débat public. Ça, je trouve ça plutôt encourageant pour notre démocratie.
Alors, tous les députés qui disent « Élisez-moi, parce que moi, je vais être au pouvoir », là, ils peuvent se rhabiller, là. Ils peuvent aller se rhabiller, là.
Ils vont être assis chacun chez eux, puis ils vont entendre des résultats.
Parce que... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais du pouce sur ce que Denis a dit. Les gens sont à se passionner pour qui formera l'opposition officielle.
Les oppositions, Sylvain, je
pense.
Oui,
oui. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais. Alors, c'est dire qu'ils estiment que ça compte, ces députés d'opposition.
Exactement ça.
Malgré les certes que tout le monde peut avoir. Là, je vais faire un clin d'œil à nos amis américains en 2016. Tout le monde prévoyait, et de très loin, l'élection de Mme Clinton. Tout le monde se disait que les chialeux sont bien forts en campagne électorale puis ils vont pas voter le jour de l'élection, comme vient de le confirmer Jean-Marc Léger. Là, ce qui m'intéresse dans la campagne, c'est pas ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui va se passer le soir du 3? Puis allons-nous vivre notre moment américain en 2022?
Là, c'est pas nécessairement un souhait que vous formulez.
Non, non. Allons-nous le connaître? Est-ce que nos certitudes vont manger une claque? Est-ce que, sans qu'on la voie, y aurait-il une vague autre qu'orange qui nous attaquera le 3 octobre prochain? Qui fait que dans l'histoire de politique de M. Plamondon, la pire victoire qu'il a eue...
Là, vous parlez de Louis.
De Louis Plamondon. Mm-hmm. La pire victoire qu'il a eue... Que ça m'en sonne, une pire victoire. Mais il était habitué à des majorités qui se comptent avec 5 puis 6 doigts.
C'est contre une candidate qu'on n'avait pas vu venir.
Contre une candidate que personne n'a vue, mais qui était supportée par une vague. Là, je suis pas naïf au point de dire qu'il y en a une. Je suis naïf au point de dire qu'il y en a... Peut-être une, on le sait pas, puis on va avoir du fun le 3 octobre.
Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Marion? Ça pourrait arriver, ça, qu'on sous-estime les... Moi, j'ai proposé ça à... Vous m'avez entendu, à Jean-Marc Léger. J'ai dit, il y a peut-être des indécis là, qui sont discrets sur le fait que c'est au Parti conservateur qu'ils ont envie d'accorder leur confiance. Et il niait ça. Il dit, non, je crois pas. Toi, Denis?
J'y crois pas non plus, non. Vraiment. Parce que je pense que, honnêtement, là, les quatre partis d'opposition, là, si on prend la CAQ qui se prépare à gouverner à nouveau, les quatre partis d'opposition ont des... Il y a des citoyens qui s'identifient à chacun des quatre. Et c'est quand même quatre mouvements, entre guillemets, différents. Et on est habitué au Québec, on a été habitué pendant combien d'années, Sylvain et Reynald, à avoir deux partis qui, dans les faits, étaient des coalitions. Mmh. Le Parti libéral a caché des gens de gauche à droite. Le Parti québécois a caché des gens de gauche à droite. Mmh. Et c'était, en fait, sur un débat qui n'était pas celui d'aujourd'hui que les gens se positionnaient, le débat national. Là, maintenant, il y a d'autres façons d'exprimer ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Puis le débat public se poursuit. On sent pas, évidemment, actuellement une vague absolument incroyable. La surprise que nous avons tous, je pense, c'est la lente remontée du Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon.
Grâce à Saint-Pierre Plamondon, essentiellement sa performance aux deux débats. Là,
exactement, ça. Mais ça demeure une surprise. Là. Rappelez-vous le nombre de commentateurs qui disaient « c'est fini ce parti-là ». Cette époque du débat national étant terminée, il n'y a plus de place pour le Parti québécois sur la scène politique.
Et François Blanchet disait, il était en visite à Sainte-Anne-de-Sorel en fin de semaine pour appuyer Gabriel Harpin, il disait les péquistes disaient pas trop fort qu'ils étaient péquistes avant les débats. Ils disaient, oh, je suis péquiste. Et aujourd'hui, ils disent, ils gonflent le torse, puis ils sont contents, ils sont fiers de dire ça.
Mais je
ça,
pense qu'on peut dire la même chose.
Lamondon.
Oui, mais je pense qu'on peut dire la même chose des solidaires.
Oui,
je,
oui.
Je pense que les solidaires, absolument. Les gens de Québec solidaire sont aussi fiers de la campagne qui a été menée par Gabriel Nadeau-Dubois. Et,
jusqu'à hier.
Jusqu'à
les,
hier.
Les solidaires étaient fiers jusqu'à hier. Là, ils ont, aujourd'hui, il y a une petite tâche dans leur.
Sur leur calculatrice,
sur leur, la petite tâche des dépliants qui se font dérober d'un boîte aux lettres.
Cela dit, ça, c'est pas la faute de Gabriel Nadeau-Dubois.
Non, 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 c'est ça. On parlait de... Les péquistes sont fiers.
Oui.
Les Québec solidaire, on est le parti sans tâche. Mm-hmm. Oups, là, il y en a une. De quelle façon ça va affecter? Oublie ça. Mais là, on regarde pour trouver des choses. Moi, j'aimerais être surpris lundi. Là, je m'en vais, je suis sur le drive, j'ai même pas besoin de peser sur le gars. Non, je suis sur le cruise control, je vais arriver lundi. J'aimerais ça qu'il y ait que chaos sur ma route.
La campagne n'est pas finie, Reynald. Moi, ça, c'est ma conviction profonde. Là. Il reste 6 jours.
C'est pas fini tant que c'est pas fini.
Et c'est ça, exactement. Je l'avais dit, it's not over till it's over.
C'est ça.
Okay, je m'excuse pour le grec ancien.
Qu'est-ce qui peut se passer?
D'abord, pour commencer, le dossier du troisième lien aujourd'hui, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Okay, là, il y aurait cette étude. Radio-Canada nous dit qu'il y a bel et bien eu une étude, qu'il y a des résultats de cette étude-là et on n'en a toujours pas. Que disent les Québécois de ça? Parce qu'à la fin, là, ce mot juste de troisième lien-là, il va être payé par vous et moi. Là. C'est pas payé juste par les gens de Québec, cette affaire-là.
Ouais, bien.
Et donc, il y a des questions qui se posent sur la transparence du gouvernement actuel dans un dossier qui est considéré par lui comme politiquement majeur.
Okay.
La remontée du Parti québécois...
Richelieu va voter lundi. Richelieu va aller voter lundi, puis il va y avoir du monde qui va avoir en arrière de la tête le troisième lien.
Oui,
moi, je pense que oui.
Oui, ils vont peut-être se dire, ouais, le troisième lien, mais le pont serait le tracé d'Anoret, puis les blocs de béton sur le pont de Turcotte, ça ne vous tente pas de réparer avant de faire votre troisième lien?
Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que la question du troisième lien n'a pas occupé suffisamment d'espace dans la campagne.
Ouais,
personnellement.
Le candidat libéral disait au débat, avant d'un troisième lien ou tout autre pont, réparons ce qu'on a actuellement.
Mm-hmm.
Alors ça rejoint des gens qui m'ont dit qu'il y avait raison.
Reynald, posons la question. Est-ce que les citoyens qui votent dans Richelieu ne sont que des citoyens qui votent dans Richelieu ou s'ils votent aussi au national? Est-ce qu'ils votent pour le premier ministre?
Et moi, je continue de penser
que c'est sur les grands enjeux.
La dernière fois qu'on s'est affronté...
Qu'on s'est jasé, Reynald.
OK. Qu'on a parlé face à face. Je disais que moi, j'aimais ça voter pour la meilleure personne de mon comté pour me représenter.
Oui.
Vous avez apporté, avec raison, que quand je vais aller voter, je vais regarder le bilan national.
Tout à fait.
C'est évident.
Tout à fait.
Mais...
Puis il y a une présidentialisation de notre politique. On vote pour les chefs.
Ben oui, on vote pour le parti.
J'étais au restaurant dimanche midi, puis j'entendais la dame à côté de moi qui me disait, en tout cas, moi, c'est clair, je vote pour... Bon, elle disait, je vote pour Gabriel Nadeau-Dubois. Elle n'a pas dit, malheureusement...
Elle n'a pas dit David Dion.
Pour David Dion. Mais elle va voter pour David Dion,
oui,
évidemment.
Parce qu'elle aime Gabriel.
Mais cette différenciation là, dans l'approche des gens, là, la capacité que les gens à avoir le portrait général, moi, ça me réjouit.
Okay.
Parce que je trouve qu'on a trop tendance à penser que la politique, c'est quelque chose qui est limité à quelques-uns, qui est à l'extérieur, sur lequel on a peu de contrôle. Moi, je pense que les Québécois, d'ici lundi, ils vont réaliser qu'ils en ont du contrôle.
OK. Hey, redevenons local, parce qu'il ne reste pas tant de temps que ça. Redevenons richelois. Il va se passer quoi ici? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Est-ce que ça va suivre le rang des partis au national? Il va y avoir des petites distinctions?
Un, c'est CAQ. On n'a pas de surprise. Okay. Un, c'est CAQ. Maintenant.
Deux.
On se donne 10 secondes chacun. Deux.
Honnêtement, là...
Ah, gaga.
Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de dire parce que...
Un sur quatre. OK. Dernier.
Parti libéral.
Parti libéral. OK. Donc, un et cinq. On oublie les deux autres, là.
Mais les grands partis, là, qui ont participé au débat.
Un et cinq, d'accord. Oh, il nous en reste avec trois.
Oui, puis honnêtement, là, je suis incapable. Puis, Rénal, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va assister, par exemple, à une vague du Parti conservateur? Tu sais, ce qui nous vient de Québec, là, nous, on est dans les premiers en Montérégie. Là. Quand il y a une vague qui descend de Québec, on l'a vu à l'époque de la CAQ. On a été parmi les premiers comtés de la Montérégie à avoir augmenté la CAQ. Oui. Est-ce que ça va être la même chose pour le Parti conservateur? Le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que ça va avoir un impact? Il y a quand même une multitude d'anciens électeurs du PQ dans notre circonscription.
Et nos tendances du passé.
Et je pense qu'on est dans le comté ici, c'est un comté où l'espace solidaire peut exister. Là. Mm-hmm. On est quand même, on a une vie communautaire très, très...
Alors
très,
ça
très,
va, très, ça très va, c'est entre Québec solidaire et le Parti québécois. Il y a quelques jours, on aurait pu dire peut-être Québec solidaire va finir deuxième. Là, c'est peut-être moins certain, hein? Moins sûr.
J'ai l'impression que la remontée de Paul Saint-Pierre Plamondon peut avoir un impact. Ouais. Mais il y a 26% des électeurs qui ont déjà voté, Sylvain. Hein?
C'est vrai.
Lundi prochain, je vais déroger à ma ligne de conduite. Si la tendance continue, si JSO prévoit, elle ne le ferait pas pour le premier poste. Je vais me garder ça pour le deuxième.
Je pense que le Québec au complet, t'as raison, Renal, le Québec au complet va calculer qu'est-ce qui va arriver. Exactement. Puis le pourcentage de vote risque d'avoir plus d'importance lundi soir prochain sur l'ensemble du Québec, là, que le nombre de députés, à cause de ce que Jean-Marc Léger disait tout à l'heure sur notre mode de scrutin, avec toi, Sylvain, sur le mode de scrutin. Le nombre de députés ne représentera pas nécessairement la force des partis
mais
en
non,
présence.
Mais
ça va changer complètement notre vie politique.
Une prévision facile ou difficile, complètement neutre, le taux de participation dans Richelieu lundi soir sera plus, égal ou moins.
Mettons qu'on va y aller autrement. J'ose espérer qu'à 26 % après deux jours de bureau de vote par anticipation, ça veut dire une augmentation du vote lundi. Mais j'ai tendance à penser que ce sont des vases communicants, que les gens qui ont voté dimanche et lundi, ce sont des gens qui auraient pu voter lundi prochain.
Lundi prochain.
Okay. J'ai une dernière question, si vous permettez. Il nous reste deux minutes. Jean-Bernard Raymond a passé 4 ans bien tranquille, sans opposition dans le comté. Personne ne l'a emmerdé pendant 4 ans de temps. Est-ce que, là, on entend ses adversaires dire, c'est une première campagne, je pense que je vais y aller pour une autre. Je pense que c'était unanime, ils nous ont tous dit ça. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, qu'ils restent actifs, qu'ils nous annoncent qu'ils resteront actifs? Là, ils risquent d'avoir, monsieur Aymon, un caillou dans le soulier. C'est l'histoire de la mouche du coche, là, pendant les 4 prochaines... Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle?
Et ce sont des jeunes.
Oui!
Ce sont des jeunes.
Et ce que j'espère beaucoup, c'est que oui, ils soient là, parce que, OK, je reviens à ma tendance de voter local avant de voter provincial, mais moi, ce qui me fait mal au cœur, malgré tout le respect et l'estime que j'ai pour M. Aymon, c'est quand je l'ai entendu dire à M. Rochon en ouverture d'émission, moi, là, le dossier des poussières en ville, là, si les gens me soumettent le dossier, je vais m'en occuper. T'es notre député. C'est un problème d'environnement. C'est un problème qui peut se régler provincial. Ton bureau est au centre-ville. Donc, t'es conscient que ce problème-là, pourquoi ne pas devenir le chef de file de cette bataille-là? Faut-il attendre que les 4 partis d'opposition te tapent dans le dos pour qu'il faut le faire?
Ben, en fait, parce que ce sont des jeunes et que les partis sont en reconstruction, les partis d'opposition vont être en reconstruction à partir du 3, on peut espérer effectivement qu'il y ait une vie politique plus intense.
Hey, merci messieurs, on se retrouve pour la soirée des élections lundi soir 20h. À l'antenne de CJSO. Soyez là, chers amis. Merci à mes invités, Jean-Bernard Raymond, Gabriel Arpin, Anthony Soriol, Marie-Ève Dionne, David Dionne, Jean-Marc Léger, Denis Marion et Rénal de Bergeron. Excellent après-midi à l'antenne de CJSO.